qui ont leur résidence auraient rendu luxueux sans parvenir à en atténuer la tristesse et la solitude. Je deviens snob, pense Chérine. Derrière le portail électrique, l'allée qui mène au garage longe un jardin où poussent près de la gloriette en fer forgé des fleurs de toutes les couleurs dont Chérine ignore les noms. Les parents d'Alban les accueillent sur le pas de la porte. Ils sont médecins, tous les deux. Il est dermatologue, elle est chef de service en chirurgie dans une clinique, et Chérine, malgré deux bises sonores accompagnées de remarques flatteuses déposées sur chaque joue, la trouve immédiatement antipathique. « Vous portez un prénom charmant », remarque la mère d'Alban alors qu'ils boivent un apéritif. « D'où êtes-vous originaire ?»« Du Val-de-Marne ?» Chérine ne trouve pourtant pas la question qu'elle a faim de ne pas comprendre, insultante en elle-même. Elle aurait même été heureuse d'y répondre si elle l'avait jugée motivée par une authentique curiosité et non par la nécessité mondaine d'entretenir la conversation. Surtout, elle n'a pas résisté à la tentation de souligner ostensiblement une maladresse de son hôtesse. « Je ne deviens pas seulement snob, pense-t-elle encore, je deviens aussi méchante. » Parce qu'elle culpabilise, elle fait aussitôt une remarque affable et insignifiante qui suffit à détendre l'atmosphère, et les parents d'Alban, manifestement soulagés, lui posent aussitôt des questions sur ses études, ses projets d'avenir, les membres de sa famille dont ils se gardent bien de demander les prénoms, et ils en profitent pour raconter des anecdotes sur l'enfance d'Alban que Chérine écoute en acquiesçant avec de grands sourires. Les longs doigts virevoltants du très puissant Jean ne cessent de danser sur ses paupières et l'empêchent de se concentrer. Elle entend à peine ce qu'on lui dit malgré ses efforts. Elle n'a conscience que d'elle-même, de l'inconfort de cette situation à laquelle il est impossible d'échapper. Et elle est maintenant reconnaissante envers la mère d'Alban dont le bavardage fluide et élégant se nourrit de son propre flux sans requérir la collaboration active d'un interlocuteur. Pourtant, contrairement à son mari dont les activités médicales semblent se partager depuis de nombreuses années entre greffes de cheveux et injections d'acide hyaluronique ou de collagène, cette femme effectue tous les jours des gestes qui décident effectivement de la vie et de la mort. Tous les jours, elle est confrontée au deuil et à l'espoir. Aux guérisons, aux rémissions fallacieuses, elle ne remporte jamais que des victoires temporaires quand tous ses échecs sont définitifs. Et Chérine trouve presque incompréhensible qu'elle puisse tenir des propos si légers avec une telle virtuosité. Il est maintenant question d'une grande maison au bord de la mer construite sur un terrain acheté bien des années avant la naissance d'Alban pour un prix dérisoire qui avait pourtant fait la joie du vendeur, un type volubile et hâbleur qui s'appelait César Romani. Et ne semblait pas très doué pour les affaires, même si, à l'époque, ajoute la mère d'Alban avec la vigoureuse approbation du père, la destination n'était pas encore très prisée et conservait encore un aspect sauvage qui avait hélas presque entièrement disparu. Maintenant qu'y passaient leurs vacances un ancien président de la République, des chanteurs célèbres, des stars du cinéma, des journalistes et des animateurs de talk-show, des vedettes de télé-réalité, le menu fretin du show-business, tous arrivés sur place bien après les Genevais, lesquels n'entendent pas se voir contester la légitimité du premier arrivant et disent combien ils sont profondément attachés à cet endroit qui a vu grandir leurs enfants au point qu'Alban s'y sent autant chez lui que s'il y était né. Il s'y est fait tant d'amis, encouragé par ses parents qui ont toujours mis un point d'honneur à s'intégrer en entretenant des relations amicales avec des autochtones par ailleurs charmants, ce qui change évidemment tout, comme Chérine s'en rendra compte elle-même, disent-ils encore. Quand elle viendra y passer des vacances avec Alban, si elle le souhaite, bien sûr. Bien sûr, dit Chérine. Est-ce cela, l'âge adulte ? Se demande-t-elle plus tard dans la nuit alors qu'Alban vient de s'endormir contre elle après qu'ils ont fait l'amour silencieusement dans sa chambre d'adolescent. C'est la première fois que vous venez passer des vacances chez les Genevais?
Non, la deuxième. Nous étions venus l'été dernier, juste Alban et moi.
Deux semaines avant que le couteau d'Alexandre Romani ne déchira les entrailles d'Alban Genevais, une épidémie de folie meurtrière se propagea pendant quelques jours depuis la montagne jusqu'aux plaines parmi les animaux sauvages et les bestiaux, et toucha même, raconte-t-on encore, quelques oiseaux marins. La rumeur disait que, dans les brumes du haut plateau, errait un taureau énorme et particulièrement irascible qui pourchassait sauvagement les intrus. Son propriétaire, craignant sans doute le procès en responsabilité civile,